Sud Radio Invino, Alain Marty, 13h30, 14h.
Bonjour à tous les passionnés du vin et de la modération également. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission délocalisée chez le caviste Nicolas de Niort, place du Temple. Vous écoutez le numéro 1081 d'Invino. Depuis la création de l'émission, c'était en 2004. On vous souhaite également un excellent week-end à tout le monde, mais notamment à nos amis auditeurs de Limoges sur 90.5. N'hésitez pas à réagir sur la page Facebook ou le compte Instagram Invino Sud Radio pour partager notamment vos coups de cœur. Aujourd'hui, un joli programme qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Paul Gaden pour le meilleur de la Savoie, le Vino Quiz pour gagner 6 verres, Really Lab Soft, la marque Chef et Sommelier. Et pour ça, il faudra jouer sur invinoradio.tv. À mes côtés, deux experts que le monde entier nous envie, même au-delà de l'univers d'ailleurs. Philippe Bidalon, journaliste et chroniqueur vin, et Philippe Orbach, auteur notamment de l'ouvrage Accord Vins et Mets. Bonjour à tous les deux.
Bonjour, bonjour, messieurs.
Bonjour.
Pour commencer cette émission, Invino Sud Radio a le plaisir d'accueillir Benoît Gérard, propriétaire du domaine Minois en Provence. Bonjour, Benoît.
Bonjour.
Alors racontez-nous, vous êtes diplômé d'une école hôtelière, vous avez côtoyé Sophie Davant pendant quelques années à la télé, et vous avez acheté avec votre épouse Mimi Mati une maison qui avait devant un petit peu de vigne.
En effet, on a acheté en 2008 une maison avec un demi-hectare de vigne. Et voilà.
Elle est où cette maison ?
Elle est située à Vaison-la-Romaine.
D'accord.
Et sur les hauteurs de Vaison-la-Romaine. Et puis, les années passent. En 2011, je me suis dit, quand même, ce serait bien que tu fasses au moins une fois dans ta vie les vendanges. Ouais. Donc, je prends à cette époque-là le Bétané des Sauves. Et coup de cœur du jury pour un grand vigneron sur la commune de Rastaud. J'envoie un mail. Est-ce que je peux venir passer une journée avec vous, faire
pour
les
comprendre
vendanges.
Comment ça marche, ce truc-là.
Hein, pour comprendre, oui, parce que bon, on aime le vin, j'aime le vin, mais je voulais savoir comment on le faisait.
Eh oui.
Donc, j'envoie le mail, je suis avec vous une journée, je paye ma place si vous voulez, je me ferai tout petit au fond de la parcelle, juste regardez. Je fais cette journée et à la fin de la journée, je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Le vigneron, un grand vigneron, il veut que je teste son nom, mais me communique sa passion.
Il n'est pas fier d'être un grand vigneron à vos yeux.
Me communique sa passion et...
Il est fier et discret.
Et très discret.
Et vous nous rappelez son nom ?
Eh bien, on verra ça tout à l'heure. Ouais. et donc le soir, on tape dans la main. Enfin, on se dit, il me dit, si tu veux, tu reprends ta vigne et je t'accompagnerai jusqu'à ce que tu sois
autonome. Donc là, il y avait un demi-hectare, c'est ça ?
Il y avait un demi-hectare. Donc j'ai commencé avec un demi-hectare. Je ne savais pas comment ça fonctionnait. Je ne savais pas faire du vin. Je ne savais pas mener un tracteur.
Ou acheter un sécateur.
Un sécateur, là, on est en pleine période de la taille. Je savais rien faire du tout. Ouais. Donc, j'ai pris tous les bouquins qui existent. Je suis allé voir des conférences, Monsieur Joly, entre autres, à cette époque-là. J'ai parlé avec tous les papets du coin, avec les vignerons, bien sûr, qui étaient autour de chez moi, avec mon mentor, parce que le pauvre...
Donc, c'était un apprentissage 100% empirique. Vous n'êtes pas retourné sur les bancs de l'école pour étudier
ça ? Non, je ne suis pas retrouvé sur les bancs de l'école.
À l'africaine.
J'ai appris vraiment sur le terrain, au fur et à mesure. Donc, en 2013, est né mon premier millésime. Alors, il a fallu trouver un nom à ce vin. Parce que
quel type de cépage vous aviez ? Enfin, vous avez
alors,
en face ?
100% grenache. La parcelle d'un demi-hectare, 100% grenache noire. Donc, là... Ma femme est intervenue. On a toujours besoin d'une femme.
Hein. Pour le nom ?
Pour le nom. Donc, elle a dit, ça va être très simple. Tu vas l'appeler Minois. Mi pour Mimi et Noix pour Benoît.
Minois, mais oui.
Tellement simple. Hein.
Philippe Bidalon.
Oui, alors, donc, dans votre ancienne vie, vous avez été cuisinier longtemps, en Bretagne, à Paris.
J'ai fait que ça.
Voilà, oui.
C'est ma passion. C'est ma première passion.
La question que je me posais, c'est, aujourd'hui, pour produire votre vin... Comme dans votre ancienne vie d'ailleurs, est-ce que vous préférez suivre des recettes, vous avez reçu des recettes, ou vous improvisez, laissez libre cours à l'inspiration du moment ?
En fin de compte, je suis mon intuition. Je suis mon intuition. Vous savez, j'ai eu la chance de rencontrer ce grand vigneron qui travaille en biodynamie. Donc tout de suite, en tout cas ma parcelle, je l'ai convertie en biodynamie. Mmh. Aujourd'hui, j'exploite 4 hectares de vignes, les 4 hectares sont convertis en biodynamie. Mais... je vais au-delà de ça, parce que mon métier, ma passion de cuisinier se retrouve tous les jours. Hier, j'étais en train de tailler ma vigne. Hein, je suis rentré ce matin du Vaucluse.
Montrez-nous vos mains, on va voir si vous mentez ou pas. Là.
Ah non, j'ai des gants. Bon. Mais c'est Alain Passard qui parlait de la qualité du geste de coupe.
Alors lui, on peut le citer.
bien sûr. Quand on lève un filet de sole, ou, enfin un poisson, un filet de poisson, ou quand on tranche une viande, on le fait une fois, on le fait pas deux fois. Hier, j'étais en train de me dire, mais là, on taille, c'est une coupe, c'est pas deux.
Et
on vient pas reprendre le pied de vigne, sa souche. Ouais. Donc, la qualité, là, je retrouve tous les jours les gestes de mon précédent travail. En
Philippe Forbrac, le geste parfait.
La gestuelle est belle. Et puis en plus, ce qui est hyper intéressant dans le cas de Benoît, c'est qu'il partage cette passion. Sur les réseaux notamment, je le suis par exemple, sur Instagram ou sur Facebook. Et là, il a fait récemment une vidéo justement sur la taille.
D'accord.
C'est juste exceptionnel, la façon dont c'est expliqué. Hein. On comprend. Il l'étudie, il le vit, et finalement, pour mieux la comprendre, c'est super intéressant de l'expliquer.
C'est pas si simple que ça,
exactement.
De l'expliquer.
Hein. Et quand on l'explique, on l'intègre davantage.
Bien sûr, qu'est-ce que vous dites, ça se ressent. Tailler, on taille, c'est fini.
Et c'est vraiment génial d'expliquer effectivement le nombre d'yeux, l'orientation de la vigne.
L'orientation de la vigne,
tout est important. Le geste. Alors aujourd'hui, on a des sécateurs qui sont électriques, avec une recharge dans la poche. Ça va mieux. Avant, on faisait ça avec des sécateurs à l'ancienne.
D'où les ampoules.
Exactement. On met des gants. On fait très attention, effectivement, parce que c'est sensible aussi. Puis c'est même dangereux.
Philippe Forbrac, donc on a Benoît qui est un chef, qui adore cuisiner et qui est un fan de vin. Mais généralement, dans la restauration, il y a beaucoup de chefs qui s'en fichent du vin.
Je ne pense pas qu'on puisse dire ça comme ça.
Les vrais chefs amateurs de vin, il n'y en a pas
trop. En tout cas, il y a un certain nombre de cuisiniers dans l'histoire qui sont extrêmement bien intéressés
au vin. Stéphane
Tournier,
au Jardin de l'Opéra, par exemple, en fait partie. C'est un grand amateur de vin, mais il n'y en a pas 50. Ou Alain Dutournier, par exemple.
Alain Dutournier, à Paris, Alain Saint-Drens, etc. Puis il y a un certain nombre de chefs qui ont investi dans la vigne.
Bien sûr.
Il y a un certain nombre. Michel Guérard est un bon exemple de vigneron aussi. Georges Blanc, etc. Michel Trama, il y a plein de chefs quand même qui aiment ça et qui ont passé le pas pour aller aussi soit acheter des vignobles, soit même faire un peu de vin eux-mêmes. Donc voilà, même si effectivement les chefs sont concentrés dans leur cuisine, ils ont déjà beaucoup à faire, ils ne peuvent pas tout faire, mais l'approche culinaire dans la gestuelle, dans la définition, dans la recette, dans l'ingéniosité pratique de la main, etc., aide, je pense, pour pouvoir comprendre l'univers du vin et la vinification.
C'est un accélérateur, en fin de compte. Vous voyez, quand on est en vendange, les fermentations, les premières fermentations alcooliques, on est là, on fait des remontages pour mouiller le chapeau. Imaginez, moi j'imagine une belle pièce de viande ou un poisson que je suis en train de nourrir avec le beurre en fin de cuisson.
Bien sûr, on arrose.
C'est ça, c'est exactement ça. Avant l'hiver, je fais des clarifications au blanc d'œuf. Je travaille de la façon la plus naturelle possible, avec très peu de blanc d'œuf.
Clarification, Philippe Forbrac, c'est quoi ça?
C'est pour enlever les impuretés dans la cuve ou dans le fût.
Voilà, c'est ça.
Donc, on utilise du blanc d'œuf parce que ça a des vertus coagulantes et donc ça filtre. Comme ça. Voilà. On utilise d'autres choses. Avant, on utilisait le sang de bœuf, c'est interdit.
Oui.
On peut utiliser la bentonite, qui est une argile flocculante, qui a aussi le même type d'effet. Traditionnellement, le blanc d'œuf, effectivement.
Sauf
pour les véganes, ce que je veux dire.
On est d'accord, mais moi, j'en mets tellement peu que de toute façon, c'est pas décelable. Donc,
c'est un voile.
Voilà, c'est un voile.
Ils vous agacent, les véganes, ou pas?
Non, chacun. Non, mais vous savez, en biodynamie, on est très ouvert. Il y a des gens dans la société, tout le monde a sa place dans la société. Ouais. Et que ce soit des véganes ou des carnivores, on s'en fout. Ouais. L'essentiel, c'est de vivre.
C'est qui boivent vos vins.
Et c'est qui boivent mes vins, entre autres, mais bon, et les vins des autres, parce qu'il n'y a pas que les miens.
Philippe Bidalo.
Oui, vous parlez de la biodynamie. Pour vous, qu'est-ce que ça apporte concrètement au vin? Est-ce que ça change le
goût? Alors, pour moi, la biodynamie, ça fait partie de ma caisse d'outils dont j'ai besoin pour travailler dans mes parcelles. En cuisine, le cuisinier, il a beaucoup de talent. Mais s'il n'a pas une matière première exemplaire, il ne peut pas travailler, il ne peut pas sortir quelque chose de beau. Moi, je considère que mon travail de vigneron, il se passe en tout cas dans les parcelles. Dans la cave, c'est cool. Il n'y a pas grand-chose à faire. La biodynamie, elle est surtout donc dans les parcelles. Mais je vais vous raconter quelque chose. En 2017, on a une copine qui a la faculté de ressentir les lieux dans lesquels elle se trouve. Et si elle est loin, il y en a qui vont me dire « ouais, il est ésotérique, qui pense ». Mais si elle est loin, avec deux objets qu'elle met dans la pièce, elle peut ressentir ce qui se passe dans la, ce qui se passe dans la cave. En 2017, je commence les vendanges. Je suis ailleurs. J'ai peur de mal faire. Je suis très angoissé. Elle ne sait pas. Elle habite Nice. Je suis à Vaison-la-Romaine. Elle m'envoie un mail en me disant, Benoît, ressaisis-toi. Tu vas voir, tout va bien se passer. Au mois de début décembre, elle m'envoie un mail en me disant, tu vois, tout s'est super bien passé. Elle m'envoie un mail dithyrambique, long comme ça. Et dans ce mail, il y a ces phrases que je vais vous citer maintenant. C'est inscrit sur un panneau à l'entrée de ma cave. Respire profondément et entre. Écoute ton vin vivre, parler, chanter. Fais confiance à ton raisin. Fais-toi confiance à toi dans ton travail de papa vin. Travaille toujours avec amour et patience. Et surtout, n'oublie pas de remercier la terre et les vignes.
Eh bien, c'est une jolie formule.
Ça, c'est elle. Hein, ça vient d'elle. Ça, c'est ma philosophie. Alors, pour répondre à votre question, oui, la biodynamie me sert. Alors, on connaît la biodynamie avec les herbes, la 500, etc.
Tout est une préparation.
Moi, j'y ajoute également les huiles essentielles de cuisinier, parce que...
Mais ça, on revient à
de cuisinier, parce que c'est super important. Vous voyez, en ce moment, je suis en train de tailler mes vignes. Sur chaque plaie de vigne, je pulvérise du lait dans lequel je mets de l'huile essentielle de clou de girofle. C'est un antalgique, ça sent super bon. Les cuisiniers ont tous des clous de girofle dans leur cuisine. Je mets de l'huile essentielle de lavande parce que ça amène la douceur et l'amour. En ce moment, je mets de l'huile essentielle de cannelle parce qu'il fait tellement froid que ça réchauffe en plus mes vignes. Et puis, je mets d'autres choses que sont entre autres la propolis, etc. Mais voilà, et j'essaye en tout cas d'être au maximum proche de mes vignes, de les accompagner au mieux et de leur faire des soins qui puissent après les faire grandir et qu'elles soient pérennes en tout cas.
La gamme de vos prix, ça coûte combien ? De combien à combien ?
Ça coûte autour de entre 25 et 40 euros.
Mais 40 euros, donc on est dans le haut de gamme. Potentiel de garde, 3 siècles ?
Pardon ?
Potentiel de garde ?
Très, très important.
Un site internet peut-être pour terminer, Benoît, pour prendre enseignement
mon
sur...
Mon site Instagram et mon site Facebook. Vous tapez Benoît Gérard Minois et vous me trouverez.
Et si on passe dans la région, on vient vous voir ou alors c'est pas possible?
Vous me téléphonez avant, en message privé sur Instagram.
Il faut toujours téléphoner ou alors prendre contact. Bon, en tout cas, c'est très bien. C'est une belle histoire de vie, une belle histoire de vin. Comme on les aime à bord de Invino Sud Radio. Merci Benoît, merci également vous, Philippe Forbach et Philippe Bidalon. On se retrouve dans un instant chez le caviste Nicolas de Niort pour cette émission délocalisée avec le Vino Quiz pour gagner 6 verres Reveal Up Soft de la marque Chef et Sommelier. À tout de suite.
Sud Radio Invino, Alain Marty, 13h30, 14h.
Retour chez le caviste Nicolas, place du Temple. Nous sommes à Niort pour cette émission délocalisée. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque week-end. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, notamment le compte Instagram Invino Sud Radio. Philippe Orbach, c'est le moment du Vino Quiz.
Oui, chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. 6 verres Reveal Up Soft de la marque Chef et Sommelier appartenant au groupe Arc, leader mondial des arts de la table, par exemple. La question de la semaine dernière était, en quelle année la famille Grassa est-elle devenue propriétaire du domaine Tariquet en Gascogne ? Réponse A, 1912. Réponse B, 2022. Ou réponse C, 1782.
Et la bonne réponse est...
Et 1912. Voici la question de ce week-end. Quel métier Benoît Gérard exerçait-il avant de décider de vivre de sa passion, le vin ? Réponse A, chauffeur de bus.
Très joli job.
Réponse B, exactement, chef cuisinier, pas mal aussi. Hein. Ou réponse C, agriculteur.
Oui,
c'est parfait aussi. Hein. Voilà. Pour répondre et gagner, on le souhaite à 6 verres Reveal Up Soft de la marque Chef et Sommelier. Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz, en vous souhaitant d'être tiré au sort parmi les bonnes réponses.
Merci beaucoup, Philippe Forbach. Invino sur Radio accueille maintenant Paul Gaden. Bonjour, Paul.
Bonjour.
Alors, racontez-nous votre histoire de vin. Là. Vous êtes ch'ti, vous êtes né à Dunkerque et vous avez fini en Savoie. Là. Vous êtes trompé de route, là, non ?
Tout à fait. Alors, en fait, c'est mon père qui a changé de boulot et je me suis retrouvé parachuté en Savoie et à Chignan.
Ouais.
Donc c'est là où j'ai du coup rencontré tous les jeunes du village qui sont tous fils de vignerons, fils ou filles de vignerons. Et c'est comme ça un peu que j'ai commencé à travailler quand j'avais 15 ans pendant les vacances scolaires, au départ pour faire 3 sous.
Ouais.
Et en fait, j'ai un bon copain qui lui reprend le domaine de ses parents qui m'a dit non, mais t'inquiète. Il y a des formations, si ça te plaît, tu peux y aller, tu arriveras bien à t'installer ou à travailler dans les vignes, il n'y a pas de...
Accroche-toi, quoi.
Accroche-toi.
Il y a combien de vignerons, là, dans la région ? Vous êtes combien ?
Le nombre exact, je ne le connais pas exactement. Après, on a, voilà, sur la commune, on est une petite vingtaine de vignerons.
Ouais, et ils sont sympas, ils accueillent des nouveaux venus comme
et
vous.
Et des étrangers, oui.
Ouais, c'est si, ça, si. Les étrangers.
C'est... Et heureusement qu'ils sont là, parce que c'est vrai que ça facilite beaucoup de choses pour les petits coups de main du quotidien, les ouais. conseils, etc.
Donc bonne ambiance. Philippe Hidalon.
Oui, alors c'est une très très jeune exploitation, parce que vous l'avez montée, enfin vous l'avez créée en 2019.
Oui.
Vous avez 25 ans, c'est ça à peu près ?
C'est ça, oui.
Ouais,
voilà, bah comme vous, Philippe. Hein.
Vous êtes gentil. Hein.
Ouais, à nous trois, on a 75 ans, c'est ça. Oui.
Et dès le départ, donc vous avez mis votre exploitation en agriculture biologique ?
Oui, tout à fait. Ouais.
Voilà, donc c'était une évidence.
C'est une évidence, et puis c'est des convictions. Voilà, pour moi, c'est quelque chose où aujourd'hui, faut travailler avec la nature, et on en voit aussi
les contraintes. Et c'est le cas de vos confrères, c'est-à-dire que c'est...
Je suis beaucoup accompagné. Voilà, nous, sur la commune, on a quand même beaucoup de vignerons bio, ouais. Dont certains qui sont certifiés depuis les années 2000. Voilà, ils ont un peu de bouteille et aujourd'hui
d'expérience quoi. Ouais.
Ça nous permet d'éviter de commettre des erreurs et nous disent ben non ça on a essayé il y a 15 ans ça marche pas et essaye plutôt comme ci comme ça donc ça.
Quels sont les cépages sur l'exploitation ? C'est un hectare et demi.
Alors j'avais un hectare et demi au tout départ quand je me suis installé et aujourd'hui j'arrive à 3 hectares et demi donc voilà donc c'est.
Et vous avez acheté
les... Alors, je loue les vignes. Par contre, j'ai pu acheter une petite cave qui fait 60 mètres carrés et dans laquelle...
Ah, c'est super. En tout cas, on est ravis de vous accueillir, Paul. Philippe ?
Donc j'ai vu que vous avez une cuvée. Elle s'appelle Hors Norme.
Oui, alors en fait...
pourquoi Hors Norme ?
C'est ce que vous avez loupé. C'est la première, non ?
C'est la première. Et en fait, donc, en 2019, on a eu un bel orage de grêle. Personne dans le village n'avait déjà jamais vu un orage comme ça.
Ouais. À quelle époque ?
C'était au mois de juin, donc le 15 juin
2019. Donc c'est dur pour un début. Hein.
C'est dur pour un début, mais on s'accroche. C'est comme ça, c'est fait et on sera tranquille pour les prochaines années. Et du coup, c'est aussi une parcelle en fait, que j'ai déclassée en vin de France. Et donc, c'était tout des petits clins d'œil. Ces choses-là.
Philippe Forbrac, vous nous rappelez un peu les catégories là. Vin de France, qu'est-ce que c'est exactement ?
C'est la
c'est
base.
C'est France.
C'est tout ce qui est produit en France. C'est un droit à l'appellation, effectivement, enfin, la dénomination vin de France. Ensuite, on rentre dans une autre catégorie qui sont les vins de pays, ou qu'on appelle maintenant les IGP, indication géographique protégée. Et puis après, on rentre dans l'autre catégorie, peut-être la plus connue en tout cas, qui sont les AOP ou les AOC, les appellations d'origine contrôlée.
Et vous, Paul, vin de France, volonté, pourquoi ? Pour faire ce que vous voulez quoi ?
Voilà, pour avoir un peu plus de liberté. Et après, j'ai quand même d'autres cuvées qui sont en appellation, avec le Chenin Bergeron, par exemple, ou de la Mondeuse, etc.
Et vous êtes combien ? Vous êtes tout seul à bosser sur...
Moi, je suis tout seul à travailler.
Ouais. Donc, vous faites combien de bouteilles en moyenne, suivant si la nature est gentille ?
Si la nature est gentille, on va dire, ça va faire à peu près 13 000 bouteilles.
13 000 bouteilles. Et c'est vous qui allez les vendre en prenant...
Alors, voilà, moi, je me fais accompagner par des agents commerciaux indépendants qui me permettent de me simplifier la tâche sur le commerce.
C'est un métier, le commerce.
Parce que c'est un métier...
Philippe Hidalon.
Alors, le cépage hein, de la cuvée Hors Norme, c'est la Jacquère. Hein,
c'est la
Jacquère. Ouais. Le cépage emblématique hein, de la Savoie.
On retrouve dans les appellations
en rouge, c'est en blanc. L'autre, c'est en blanc. Blanc, oui. Ah, en rouge, c'est la Mondeuse, c'est l'autre
exactement.
Cépage emblématique de la Savoie.
Voilà.
Et alors, les caractéristiques, ça sonne quoi ? Faut l'apprivoiser ? C'est un cépage gentil, méchant ?
La Jacquère, c'est un cépage qui est assez rustique. Et par exemple, cette année, qui s'en est très bien sorti par rapport au mildiou. Avec l'été pluvieux, étonnamment. Mais ce sont des cépages aussi qui sont légers, que ce soit la Jacquère ou la Mondeuse, on n'est pas sur des hauts degrés.
Globalement, c'est combien à peu près ?
On est à 11, entre 11 et 11,5.
Bah, par les temps qui courent, c'est bien.
Donc c'est assez
intéressant.
Vous êtes
tendance, Paul.
Ça reste, du coup, accessible.
Et il y a un potentiel de garde ou c'est du plaisir immédiat pour foutre dans l'année ?
La jacquière peut se conserver entre 3 et 5 ans, voire un peu plus, ça dépend comment c'est vinifié au départ. Et par contre, la mondeuse, voilà, on peut aller sur des potentiels de garde à plus de 10 ans, 10, 15 ans.
Philippe Faubra, vous avez quelques souvenirs mémorables
Oui, j'ai des souvenirs de verticales, comme on dit, de mondeuses, notamment avec Michel Grisard, qui est un des grands vignerons savoyards que l'on salue. On avait dégusté sur 20 ou 25 ans, je me souviens, il y a déjà quelques années.
Et ça tient.
Et ça tient, et non seulement ça tient, mais ça évolue très très bien. Enfin, je veux dire, on pourrait dire ça tient, mais ça évolue bien.
Encore un cliché qu'il faut
avec
oublier.
Avec une connotation un petit peu Syrah, quelque part.
En fait,
avec
au
le
départ,
temps.
L'origine, la mondeuse, c'est parent de la Syrah.
Ah. Mais c'est la mondeuse blanche. C'est la mondeuse blanche qui est croisée avec le Dureza, qui est un cépage, lui, pour le coup, ardéchois, qui a donné naissance, effectivement, à la Syrah. Donc il y a une filiation qui se retrouve et qui est d'autant plus évidente avec le temps, parce que les vieilles mondeuses, effectivement, avec ce note fruitée et surtout épicée, rappellent vraiment un peu des connotations de la Syrah.
Philippe Dallon.
Alors cette cuve hors norme, elle a une autre caractéristique, c'est qu'elle a une étiquette qui est amusante et jolie. C'est une marmotte.
C'est ça.
Coiffée d'un bonnet de ski.
Alors, voilà. Savoie, c'est original. Hein.
En fait, l'idée de départ, vu que je partais pour donc sortir de l'appellation et être en vin de France, je me suis dit c'est là où on peut s'amuser un petit peu et avoir un côté un peu plus jeune sur les étiquettes. Parce que sinon, j'avais une
Vous n'avez pas eu de problème avec les deux marmottes, là, les tisanes ?
Non, pas.
Parce que quand même, on joue sur la marmotte, quand même. C'est... Philippe ?
Sinon, oui, vous avez aussi une cuvée donc, en appellation, chez un Bergeron, donc voilà. Blanc. Et là, c'est de la roussane.
Et là, c'est 100% roussane. Voilà. Donc, c'est une toute petite appellation qui est répartie sur trois communes. 3-4 communes entre Chignin, Montmélian et Arbin. Donc voilà, 100% roussane et on arrive à garder de la fraîcheur sur des roussanes, ce qui est intéressant aussi.
Et quel est l'élevage ?
Philippe Faubrac, la gastronomie avec ces vins-là, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme type de plat là ?
Alors avec le Chignin Bergeron qui est quand même un peu la star dans les blancs, hein, tout à l'heure on évoquait avec vous le potentiel relativement réduit de conservation de la jacquère, autant la roussane pour le coup ça se garde même très bien. Moi j'ai goûté aussi des roussanes, enfin des Chignin Bergeron de plus de 10 ans d'âge, et franchement, c'est encore très bien de rendez-vous. Alors, il ne faut pas imaginer la gastronomie savoyarde qu'à travers la raclette,
la fondue, la raclette,
etc. Mais néanmoins, les fromages savoyards, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire.
Que du light.
Franchement, il y a de très, très beaux accords. Des vieux Beauforts, par exemple, avec des Chignin Bergeron qui ont un certain âge, c'est juste c'est incroyable. La tome aux herbes, notamment, est quelque chose aussi, que j'aime beaucoup aussi, parce que ce côté très, très floral, extrêmement parfumé de ce fromage, avec un vin qui a un spectre aromatique très large, ça fonctionne aussi très bien. Après, il y a les poissons des lacs aussi. Hein. C'est une des grandes spécialités savoyardes. L'omble chevalier, la ferra, etc. Travailler, je veux dire, le plus simplement possible, ce sont des produits locaux qui fonctionnent très, très bien avec les vins de cette région.
Philippe Dallon, vous avez une question sur l'élevage, peut-être ?
Oui. Quel est l'élevage ?
Alors, moi, je travaille uniquement en cuve inox et je fais des élevages assez courts, on va dire, entre 7 et 8 mois. Voilà.
Philippe Faubrac, une cuve inox, avantage d'inconvénient, c'est quoi ? C'est classique dans le vignoble français ?
C'est devenu classique il y a quelques dizaines d'années. C'est pratique en tout cas. C'est vrai que ça se nettoie facilement. On peut gérer la température au mieux quand c'est équipé convenablement. Après, c'est pas toujours la panacée. On en revient un petit peu.
D'accord.
Parce qu'il y a aussi des champs magnétiques qui se développent, qui font que ça stabilise pas toujours le vin.
D'accord.
Finalement, l'inertie thermique sur des cuves en béton sont assez intéressantes. On en revient d'ailleurs. On y revient plus exactement. Le bois est quelque chose d'intéressant à gérer quand on travaille, quand on a les moyens d'acheter aussi des belles futailles, comme on dit, et qu'on est très précautionneux dans son utilisation. Donc voilà, aujourd'hui, on a des tendances aussi de faire des essais sur du matériel comme le grès ou avec des amphores, enfin, etc., d'autres types de matériaux qui sont intéressants aussi. Il y a une recherche permanente dans cet univers-là, qui permet effectivement de faire des essais, petit à petit d'avancer. Ça correspond aussi à des époques. Oui. L'inox était très populaire à une certaine époque.
Paul, l'objectif, c'est quoi? C'est de continuer à grandir, 3 hectares et demi aujourd'hui. C'est d'arriver quoi, à 300 hectares?
Non, quand même pas, non. C'est de rester petit, mais d'arriver à 5 hectares à peu près.
Pour, 5 hectares. Et à 5 hectares, on travaille tout seul, c'est encore jouable ce...
On court un petit peu, mais ça, ce sera jouable.
Et le tourisme, on en parle quand même beaucoup pour cette émission. Vous faites un peu des fiestas, il y a des choses organisées dans la région?
Alors dans la région, oui, il y a souvent le no-tourisme globalement se développe et est poussé. Et après, il y a pas mal d'animations qui se mettent
en place. Bon, on va vous suivre alors dans ces cas-là. Vous avez un site internet pour prendre enseignement?
Oui, alors donc c'est www.paulgaden.com, domainepaulgaden.com.
Merci Paul, merci également à Philippe Bidalon, à Benoît Gérard, à Philippe Forbach et aux amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Justine qui a préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invinoradio.tv, la page Facebook, le compte Instagram Invino Sud Radio. Et on se retrouve demain. Demain, ça sera à 12h30 précise pour une nouvelle émission qui va être délocalisée chez Nicolas, le caviste qui a été fondé en 1822. On va recevoir demain Maxime Cotenceau pour le meilleur de la Bourgogne et Pauline Lair pour parler également de la Loire avec le concept de 1006 basé à Angers. D'ici là, excellent week-end. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français et surtout respectez la plus grande démodération. Salut, salut.
Sud Radio Invino.